Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, on continue avec une nouvelle invitée que vous connaissez déjà et c'est Aude.
Salut.
Salut, ça va bien?
Bah, ça va bien de mon salon.
Ah, bien installé, dans le confort, la sécurité.
Bah oui, écoute, il faut faire avec, hein.
Oui, ça va. Là, il reste 3 semaines, grossièrement. Oui. On va tenir.
On espère.
Le plus dur est passé. Enfin, j'espère.
On espère.
Bah, ça fait très, très plaisir. On avait fait le premier essai d'invité à distance avec Alex. Ouais, j'avais beaucoup apprécié. Et puis, apparemment, les gens ont beaucoup kiffé son sujet aussi. Donc,
Bah, oui, j'ai vu. J'ai vu les réactions. Ils étaient contents. Bah, lui, ça, il était très content aussi que ça vous ait plu.
Ah, bah, faut dire qu'il est fort. Hein. Et puis, maintenant, voilà. Ah. Moi, perso. Ouais. Je comprends bien ce qui se passe dans l'espace. Il me semble que toi, tu as un sujet un petit peu différent à nous partager.
Eh oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on est mariés qu'on traite des mêmes sujets. Je l'ai épousé parce qu'il était très très fort, effectivement, en sciences. C'est une des choses qui m'a séduite. Parce que moi, c'est pas trop mon truc. Donc, j'apprends plein de choses avec lui. Moi, c'est plus l'histoire, la géographie, les sujets de société qui me plaisent le plus par ma formation. Et là, je me suis intéressée un petit peu en ces temps un petit peu particulier de pandémie, d'épidémie, de civilisation, en fait, à qu'est-ce qu'une civilisation quand elle disparaît? Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation qui disparaît?
La façon de le présenter.
Ouais, elle est horrible, je sais.
Flippant.
C'est super flippant. Mais
alors,
voilà.
Vu qu'on risque de disparaître, je me suis demandé comment les autres ont disparu.
Entre autres. Et puis, bon, en fait, comme on est enfermé, je regarde des documentaires. Voilà, et je suis tombée sur des documentaires sur des civilisations disparues. Donc, j'ai voulu creuser un petit peu le sujet aussi.
Très bien. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Tu me disais tout à l'heure, tu l'avais découvert sur Disney+, c'est ça?
Entre autres, ouais. C'était un tout petit sujet dans un épisode. Mais la civilisation dont je vais vous parler là, je l'avais déjà entendue une première fois dans mes cours de licence. Pour tout vous dire, grâce à un de mes profs de géographie qui avait décidé de nous faire de l'ethnographie. Et il nous avait parlé de cette civilisation. Et en voyant le reportage du National Geographic sur Disney+, qui s'appelle « Les trésors au fond des océans », c'est trop cool. En gros, ils arrivent maintenant, avec des moyens technologiques, à vider les océans pour voir les épaves, pour plein de trucs. Donc, c'est hyper intéressant.
Vider les océans ?
Ouais, en gros, ils font...
avec un très, très gros seau. Et...
non, mais tu sais, en gros, il faut des... avec un outil informatique, en gros, ils arrivent à vider, ils scannent le fond des océans.
Ah oui, ok.
Ils enlèvent l'eau et en fait, tu peux voir les épaves. Ils ont retrouvé plein d'épaves comme ça, des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont retrouvé, plein de choses qui font avancer la recherche et l'archéologie sur ces thèmes-là. Et là, notamment, l'épisode qui m'a intéressé parce qu'il parlait de cette civilisation-là, c'était l'épisode qui traitait de l'Atlantide, puisque c'est le sujet.
Ah oui, la fameuse civilisation.
La fameuse civilisation dont Platon parlait, dont je vous parlais un petit peu aussi, qui a disparu engloutie sous les eaux. Et on ne sait pas si elle a existé. Encore plein de chercheurs la cherchent aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un mythe, si c'est inspiré d'une civilisation, potentiellement la civilisation dont je vais vous parler. On ne sait pas. Donc, c'est toute une histoire. Donc, je vous invite à regarder Trésor au fond des océans sur Disney+. Et même tous les autres reportages du National Geographic qui sont vraiment d'une qualité incroyable.
Bah cool. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu veux nous annoncer le nom de cette civilisation maintenant ou après ton jingle?
Je peux vous annoncer le nom de la civilisation maintenant si vous voulez. Je vais vous parler des Minoens.
Très bien. Et écoute, allons-y. Générique.
Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. Minotaure, ça va être la grande régalade.
Ah oui? Eh bien, place à la civilisation.
Alors, il y a 5000 ans, il y a une civilisation qui va se développer en Grèce, sur l'île de Crète. Donc, ils vont être les premiers Européens à utiliser l'écriture. C'est les tout premiers dont on a encore des traces d'écriture. Mais à l'apogée de leur existence, ils vont être rayés complètement de l'histoire. Leur disparition reste l'un des grands mystères de l'Antiquité. Jusqu'à récemment, on avait pensé que ces Minoens, cette civilisation, avaient succombé à des conquérants venus de l'étranger, et d'autres chercheurs incriminaient une éruption volcanique de grande ampleur. La plupart des travaux des chercheurs mettent à jour une catastrophe naturelle qui aurait englouti la civilisation. Le sort de cette civilisation.
Je peux te permettre juste de demander, c'est quelle période à peu près, t'as une idée ?
Il y a 5000 ans, donc c'était à peu près dans l'Antiquité, dans le tout début de l'Antiquité. C'est, les chercheurs le placent un petit peu avant la période de l'Iliade et l'Odyssée.
Ok, ok, top.
C'est vraiment au tout début de l'Antiquité, si on peut dire au tout début de l'Antiquité.
Ok.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a très très peu de traces. Donc voilà. Donc certains chercheurs pensent qu'il y a eu une catastrophe naturelle qui a englouti cette civilisation. Donc le sort de cette civilisation, elle aurait pu peut-être inspirer le mythe de l'Atlantide. Mmh. Certains chercheurs se penchent sur cette piste-là. D'ailleurs, il y a plus de 2000 ans, donc là on était il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, le philosophe Platon faisait le récit donc de l'Atlantide, une civilisation engloutie par les flots. Certains archéologues pensent que les origines du mythe seraient nées en Crète et auraient pu rester dans la mémoire collective comme l'épisode qui a vu la disparition des Minoens. Donc on va un petit peu mener l'enquête pour savoir si ce serait possible que Platon, ayant entendu des histoires de civilisations enfouies, aurait pu penser que c'était les Minoens.
Ok.
Voilà. Alors, jusqu'au début du XXe siècle, les Minoens étaient un peuple mystérieux, connu seulement par les Grecs et leurs mythes, et qui évoquait des monstres et des sacrifices humains. C'est les seules choses qu'on savait avant le début du XXe siècle sur les Minoens. Comme quoi, c'était une civilisation avec des monstres et qui faisait des sacrifices humains.
Ok. Bon.
Voilà. C'est les seules choses qu'on savait. Voilà. Notamment, il y a un de ces monstres qui est assez connu dans la mythologie, puisque en Crète, au milieu de l'île, au centre de l'île, on a des mines qui ont été pendant très longtemps considérées comme le lieu qui abritait le légendaire labyrinthe du Minotaure.
Ah, c'est le... C'est homme à tête de bœuf, c'est ça ?
Homme à tête de... Oui, de vache, entre guillemets, de bovin, et corps d'homme. Voilà, moitié homme, moitié taureau même, plus précisément.
Ah oui, voilà. Et plutôt costaud, généralement.
Plutôt costaud. En fait, le mythe explique qu'il y avait cet homme, moitié taureau, qui avait été enfermé par le roi Minos, et qui se nourrissait de chair humaine.
Ah, pardon.
Le Minotaure, d'ailleurs, pas vivant, il aimait jouer avec.
Ça coupe un petit peu.
Pardon. Je disais que le Minotaure, il aimait consommer ses proies vivantes et jouer avec avant de les dévorer. C'est pour ça qu'on lui avait créé un labyrinthe où on envoyait des tribus, des sacrifices, assez récemment. Et ces sacrifices étaient envoyés par Athènes, qui était perdant contre les Minoens, puisque Minos était le roi des Minoens. Mmh. Et Minos réclamait donc ce tribut à Athènes composé de 7 jeunes filles et de 7 jeunes hommes qui entraient dans le labyrinthe et n'en ressortaient évidemment jamais.
D'accord, donc c'est un délire. Donc Minos, il avait un labyrinthe avec un Minotaure dedans.
Exactement.
Il avait explosé les Athéniens, il leur demandait un tribut pour nourrir le Minotaure.
C'est ça. Donc, ce mythe, c'est le mythe le plus important qui nous relie en fait les Minoens à quelque chose de légendaire en fait dans la légende collective. Mmh. Donc c'est une des traces qu'on a des Minoens avant le XXe siècle. Donc, un tel mythe a laissé dans l'esprit des hommes que les Minoens pratiquaient évidemment des sacrifices humains. Pour eux, les archéologues se sont dit, bon bah, si on envoyait, même si au XXe siècle, on ne pensait plus que le Minotaure existait, on le voyait comme un mythe, on se disait, c'est peut-être des résurgences, en fait, de pratiques du sacrifice humain chez les Minoens.
Une légende qui a été construite autour de la pratique.
Autour, exactement, de la pratique. Donc, en gros, c'était un élément, un indice pour essayer de comprendre quelle était cette civilisation au début du XXe siècle. On savait qu'elle avait existé, mais on cherchait à déterminer si elle avait existé plutôt, et on avait cette légende-là. Donc, on ne sait pas si c'était de la réalité ou de la propagande initiée par les Grecs aussi, qui devaient payer ce tribut de cet jeune homme et cette jeune fille. Donc, peut-être aussi que les Grecs ont décidé de faire une propagande contre les Minoens, qui étaient un peuple extrêmement puissant.
Oui, un peu comme il n'y a pas si longtemps en Europe avec les Allemands qui mangeaient les enfants.
Oui, c'est ça, d'accord. Exactement. Donc,
visant à déshumaniser
le peuple adverse. Donc, jusqu'en 1960, le mythe du Minotaure constituait pratiquement tout ce que nous connaissions sur les Minoens. Mmh. C'était la seule chose. Et on va avoir un archéologue britannique dans les années 1960, qui s'appelle Arthur Evans, qui en va entreprendre des fouilles en Crète près du village de Knossos. Et à la stupéfaction du monde entier, il exhume une civilisation de l'âge du bronze particulièrement avancée. Donc l'âge du bronze, si vous voulez, c'est quand on vous parle de préhistoire, on vous parle de différents âges. Mmh. Et donc là, on se situe dans l'âge du bronze. Donc c'est dans l'âge où on est quand même, on n'est pas à l'âge des chasseurs-cueilleurs, on n'est pas à l'âge, on est à l'âge où on commence à utiliser le bronze et à justement s'en servir comme un outil important.
Donc c'était il y a déjà des forgerons.
Exactement. Donc c'est une civilisation extrêmement avancée pour cet âge-là. Mmh. Donc, quand les anciens Grecs étaient encore un peuple de guerriers barbares, cette civilisation qui était les Minoens bâtissait des palais. C'est okay. Pour vous montrer à quel point il y avait une sorte de
d'écart.
Comment dire, d'écart voilà, entre eux. La capitale des Minoens était un chef-d'œuvre d'urbanisme. Donc, il y avait des temples, des habitations, des greniers reliés par les premières routes d'Europe. Ce sont eux les premiers qui ont fait une politique d'urbanisme en traçant des routes et des rues. Mmh. On est à l'âge du bronze, hein, je rappelle, donc il y a 5000 ans.
Alors ça, que c'est ce qu'il a découvert ou c'est ce qu'il a découvert dans les écrits
C'est ce qu'il a découvert en faisant des fouilles archéologiques. En fait, il a inhumé complètement une cité minoenne. Et donc, il a découvert qu'il y avait des rues, qu'il y avait des palais, qu'il y avait énormément de choses. Donc, plus tard, les chercheurs vont continuer à exhumer et découvriront d'autres colonies minoennes en Crète, et même au-delà de la Crète. Donc, en plus de ça, c'était une civilisation qui s'était installée en Crète, mais qui avait réussi à s'étendre sur d'autres endroits de la péninsule grecque, quoi. De la péninsule grecque et des îles grecques.
Ok, donc plutôt puissant.
Très puissant, j'y viens. Donc, les Minoens avaient colonisé d'autres îles de la mer Égée, ainsi que une partie de la Turquie occidentale. Donc, ils étaient allés jusqu'en Turquie. On retrouve des objets minoens aussi bien en Espagne qu'en Mésopotamie. Donc, en faisant des fouilles en Espagne, en Mésopotamie, les archéologues ont aussi retrouvé des objets qui ont été fabriqués par les Minoens et qui ont dû voyager jusque là-bas.
Okay, donc, soit du commerce, soit des invasions, j'imagine.
Alors, ce sera certainement du commerce parce qu'ils ont un très, très grand empire maritime. Okay. Il était tellement important qu'il pouvait rivaliser avec les Égyptiens, qui étaient l'un des plus grands empires de l'époque.
Voilà, l'Égypte. T'es en train de me teaser de ouf parce que tu me dis qu'ils étaient quasiment aussi puissants que les Égyptiens, mais ils se sont pété la gueule. Que
exactement. Et voilà. Donc là, je vous explique pourquoi c'est une civilisation incroyable. Mmh. Donc, les Minoens étaient aussi habiles, des habiles artisans, capables d'utiliser des outils pointus comme des outils pointus scientifiquement, puisque par exemple, ce sont les premiers. Non, voilà, ce sont les premiers qui, par exemple, utilisaient des lentilles grossissantes pour pouvoir travailler sur des tout petits détails. Par exemple, s'ils voulaient sculpter très très finement une poterie par exemple, ils utilisaient une lentille grossissante et ce sont les premières à tester en Europe occidentale aussi.
C'est ouf.
C'est incroyable. Donc dans les ruines de Knossos, ces ruines de Knossos là que Sir Arthur Evans a découvert, il a aussi découvert qu'il abritait un palais que lui pensait que c'était le palais du roi Minos et qu'il pouvait abriter aussi le légendaire labyrinthe. Bon, ça, c'était ce que pensait en 1960 Sir Arthur Evans. Sauf que aujourd'hui, on sait que les archéologues, pensent que ces ruines étaient un temple destiné à recevoir les pouvoirs magiques des cieux. Donc, en gros, les Minoens, on sait qu'ils avaient une religion basée autour du culte du soleil. Mmh, okay. Donc, en gros, si vous voyez les reportages sur les Minoens, vous en avez plein sur Internet qui circulent. Vous pouvez voir ces ruines de Knossos et notamment ce temple du soleil. Et c'est vrai que les derniers archéologues qui ont travaillé sur ces ruines montrent comment tout tourne autour du circuit du soleil dans la journée.
Ok, c'est ouf.
Et c'est très intéressant parce qu'on ne savait pas en quoi croyaient les Minoens. Et donc, c'est un début de piste pour comprendre la religion que pratiquaient les Minoens.
Et puis comme beaucoup de religions à l'époque ou de cultes à l'époque, c'était autour des éléments qui t'entouraient forcément. Donc,
exactement.
Le feu, le soleil, les astres.
Donc par exemple, pour vous donner un exemple, on découvre que chacune des portes sont alignées avec le soleil et avec le soleil levant à des moments clés de la journée, par exemple.
Okay.
Voilà. Les Minoens, ce sont aussi ceux qui ont eu... qui ont eu des premières écritures très intéressantes, puisque ils ont vraiment une écriture qui est très poussée, avec des écrits, on retrouve des gravures, des stèles, et on découvre aussi que cette écriture est aussi mystérieuse, et elle a été, parce qu'on n'arrive pas forcément encore beaucoup à la traduire, et elle a été baptisée le linéaire A. On sait qu'elle s'apparente à une langue primitive d'Iran.
Okay.
Donc, ça pourrait expliquer pourquoi ce peuple est aussi différent des Grecs, parce qu'il serait plus asiatique qu'européen.
Ok, je comprends.
Voilà. Donc, pourtant, malgré cette puissance et cet incroyable empire qu'ils avaient construit, ils disparurent brisquement il y a 3500 ans. Donc, on sait que cette civilisation date d'il y a 5000 ans. Mmh. Platon en parlait il y a 2000 ans et elle a disparu il y a 3500 ans.
Ok.
Donc, si on voyage un petit peu dans la mer Égée, il y a une île qui est l'île de Santorin, qui est assez connue parce que c'est une île très touristique, qui peut nous dévoiler une partie du mystère. Cette île de Santorin, elle abrite un volcan et il y avait des colonies minoennes qui s'y étaient établies. Et ces colonies minoennes, elles ne savaient pas qu'il y avait un volcan dans le coin.
Ah.
Donc, c'était un petit peu embêtant. Et donc, il y a une cité qui s'appelle la cité d'Akrotiri, qui était installée sur l'île de Santorin et qui a été découverte en 1967. Elle a été découverte parce qu'elle avait été ensevelie sous les pentes du vaste cratère du volcan de Santorin.
Ok.
Donc, en fouillant, on a découvert cette cité. Alors, on sait que dans cette colonie minoenne et cette cité d'Akrotiri, on y cultivait du safran. Et on le sait pourquoi, parce que cette culture du safran, elle a été immortalisée par des peintures qu'on a pu redécouvrir en faisant les fouilles archéologiques et qui donnent à voir une vie agréable et très confortable des Minoens, notamment dans cette colonie.
Ça va être ouf de retrouver ces peintures.
Ah ben, c'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, quand Camille avait parlé de Pompéi, on sait qu'il y a pas mal de ruines, notamment dues à des éruptions volcaniques ou autres, qu'on arrive à redécouvrir après. Il y a des choses qui sont bien conservées. Donc, quand on redécouvre des choses comme ça, on se dit « Ah, ok, c'est pas grec, c'est pas égyptien, qu'est-ce que c'est ?» Et on se dit « Mais en fait, je suis sur un coup, là, les gars. C'est un truc que personne ne connaît. » Donc, voilà. Donc, pourquoi cette île de Santorin et cette colonie minoenne va nous donner des indices? Parce que vers 1600 avant Jésus-Christ, Akrotiri est secouée par un violent tremblement de terre. Et ce n'était que le début. Soudain, explosion du volcan, qui entre en éruption en éjectant des cendres, du gaz et des roches jusqu'à 40 km dans la stratosphère. Un petit peu de science, c'est pour Alex.
Ça fait plaisir, allez hop.
Il s'agit de la plus grande explosion volcanique de l'histoire de l'Europe. Ça n'a jamais encore été attesté une plus grosse explosion, éruption et explosion volcanique. La cendre a obscurci l'air et le ciel bleu de Crète, probablement pendant plusieurs jours sur la partie orientale de l'île. Ce n'est qu'un nuage de cendre qui va entraîner la chute. Et ce n'est pas le nuage de cendre qui va entraîner la chute des Minoens, je vous rassure. Mais ce nuage de cendre, ça a dû, pour les Minoens, être vraiment très difficile à vivre. Eux, qui étaient une civilisation certainement basée sur le culte du soleil, ne rien voir, être dans la nuit et l'obscurité pendant des jours entiers, ça a dû être très compliqué. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, ça a dû être très très compliqué à vivre. Pour eux, vraiment, ils ont dû sentir que c'était la fin du monde.
Ah bah oui, ça doit être un présage plutôt mauvais. Et puis,
plutôt mauvais.
Bon, ça s'est plutôt mal fini.
Exactement. On va continuer les fouilles dans une autre cité un petit peu plus loin, qui s'appelle Palaikastros, sur l'île de Santorin, toujours, et qui laisse à penser que c'était... sur l'île de Crète, et ces fouilles laissent à penser que c'était Palaikastros, c'était la seconde cité après Knossos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été la découverte la première, et c'était la seconde plus grosse cité des Minoens, qui contenait plus de 5000 habitants. Pareil, on est sur une cité avec des routes quadrillées, pavées, avec des égouts, les premiers attestés en Europe.
Ah, je crois que c'était les Romains, tiens.
Eh ben non, ce sont les Minoens. Maintenant, on a découvert ça. Les chercheurs, en étudiant les sols, mais également les ruines de Palaikastros, vont découvrir des traces de destruction ayant pu être commises par un tsunami. Mais pas un tsunami commun. Donc, on sait que sur l'île de Santorin, l'éruption volcanique, Akrotiri a été ensevelie. Donc déjà, premier coup dur. Nuage de cendres sur toute la mer Égée, notamment sur toute la Crète. Ok, on voit rien.
Calme.
Ça calme. Mais en plus de ça, en faisant des recherches, là, je vous le fais très rapidement, si vous voulez, il y a plein de documentaires qui vous expliquent comment ils ont découvert, en observant des strates de sol, machin, etc., comment il y a eu ces choses-là. Allez-y, si ça vous intéresse. C'était trop long et trop compliqué à expliquer, mais en gros, c'est en étudiant les différentes strates de sol et en prenant des carottes, ce qu'on appelle les carottes de terre, qu'ils ont pu découvrir. Voilà.
C'est les carottes quand on creuse, hein, c'est pas de la nourriture.
Voilà, des carottes de terre, étudier les différentes strates et découvrir qu'il y avait des coquillages à plus de 10 km de la mer sur des falaises de hauteur de 20 mètres, qu'il y avait certainement eu un tsunami. Mmh. Voilà, donc on sait que ce que Palaiskathros a des traces de destruction qui ont pu être commises par un tsunami, mais pas un tsunami commun. Les chercheurs ont réussi à calculer la hauteur de la vague. Et c'était une vague de plus de 20 mètres. Donc, par souci de vous montrer
une échelle, quoi, une comparaison.
Voilà, une échelle, une comparaison, voilà. Le tsunami de 2004 en Thaïlande, c'était ça, à peu près la hauteur des vagues.
Ok, ouais, donc c'est...
C'est un très gros tsunami. Mais il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a eu plusieurs tsunamis d'affilée. Et c'est ça qui a mis bas en fait à cette civilisation et qui fait que c'est la plus grande catastrophe naturelle jamais enregistrée. Donc, quand le volcan va s'effondrer, ce qu'on appelle la caldeira du volcan va s'effondrer, elle va envoyer plusieurs murs d'eau dans la mer Égée. Ces vagues vont percuter les îles en rebondissant d'une île à l'autre. Donc c'est un tsunami ping-pong, quoi. En gros, ça renvoie les vagues.
J'ai vraiment trop de la peine pour eux parce qu'ils ont l'air d'avoir pris beaucoup trop cher.
Ah, ils ont pris tellement cher, c'est incroyable, quoi. Donc, ces vagues, elles vont percuter les îles en rebondissant d'une île à l'autre de la crête. OK ? Et donc, la crête, elle va être frappée par une série de vagues d'intervalle de 30 à 46 minutes. D'accord ?
Ouais, donc, et pendant combien de temps ?
Puis 30 minutes plus tard, il va y avoir une troisième vague. Puis une quatrième vague qui va arriver sur Knossos. Donc en gros, il y a eu pas un tsunami, mais quatre tsunamis, quatre vagues. Donc, il faut savoir que Knossos, c'est assez loin, était assez loin dans les terres. Donc, elle n'a pas été forcément beaucoup touchée. Knossos, qui était la capitale en fait de la civilisation minoenne. Mais il faut vous imaginer que toutes les villes et les colonies qui étaient aux abords de la mer, elles vont être complètement détruites par ça. Et puis en plus, il faut vous imaginer que déjà, on a le nuage de cendres, on n'y voit plus rien. On a un culte solaire et là, on ne peut plus vénérer le soleil. En plus, on est un empire maritime qui est beaucoup basé sur la mer, sur la pêche, ils ont une grande flotte aussi de bateaux. Mmh. Et là, la mer se retourne contre vous. Pas une fois.
Quatre fois.
Alors là, c'était la fin du monde pour eux. Donc déjà, pour s'en relever psychologiquement de ça, il y a eu des milliers de morts hein, de toute façon, mais en plus de ça, pour s'en relever, c'était très compliqué. Donc Knossos, elle était assez loin dans les terres, et donc la civilisation a pu continuer, mais évidemment, avec cette catastrophe naturelle, elle a perdu toute son hégémonie d'antan. Mmh. Donc on sait que vers 1450 avant Jésus-Christ, il y a eu une montée de violence chez les Minoens, notamment sur l'île de Crète. On sait qu'il y a une montée de violence, il y a eu énormément de violence et on ne sait pas pourquoi. Peut-être est-ce une révolution, c'est une des possibilités, ou une invasion étrangère. Okay. Et en continuant les fouilles archéologiques, ils vont découvrir dans une ville qui s'appelle Lakné, un cimetière qui était assez inhabituel. C'était un cimetière de guerriers qui n'était pas commun à ce que faisaient comme coutumièrement les Minoens comme coutume d'inhumation. En gros, c'était pas comme ça qu'ils enterraient leurs morts. Donc, comme c'était un cimetière de guerriers, on s'est dit que potentiellement, c'est peut-être un témoignage d'une invasion venue notamment de Grèce. Et donc, ce qui expliquerait pourquoi, après que les Minoens aient disparu, ce soit les Grecs du Péloponnèse qui se sont installés en Crète.
Oui, et puis ils étaient plutôt bien placés.
Voilà. Donc, en gros, c'est ces envahisseurs du Péloponnèse qui vont s'emparer de la Crète et les Mycéniens, qui sont un autre peuple de cet environnement grec, pour faire simple, vont achever la décadence et la disparition des Minoens. Et c'est grâce à un site funéraire du côté de Knossos qui va nous montrer des traces de cannibalisme qui va nous dire ça, puisque en fait, en gros, les Mycéniens vont achever de... Ils vont les tuer, ils vont les disséminer, il va y avoir une sorte de génocide, en fait, chez les Minoens. Et il faut savoir qu'après des catastrophes naturelles, pour s'en relever et remettre en route une économie, une culture, des champs cultivables, etc., c'est très, très compliqué. Donc, on sait qu'il y a pu avoir du cannibalisme à ce moment-là chez les Minoens pour pouvoir se nourrir et subvenir à leurs besoins. Et donc, en gros, il y a un site funéraire du côté de Knossos qui montre donc ces traces de cannibalisme pratiquées chez les Minoens qui peut-être serait à l'origine du mythe du Minotaure à ce moment-là. Donc, et c'est en l'espace d'une seule génération que les Grecs vont conquérir complètement la Crète, mettant fin à la civilisation des Minoens. Donc, en fait, c'est une civilisation qui a disparu à cause d'une catastrophe, pas forcément à cause complètement d'une catastrophe, puisque toute la civilisation n'a pas disparu, mais en l'espace d'une génération, cette civilisation va disparaître. Ils vont pas tuer tout le monde, ils vont tuer une bonne partie avec des invasions, vu que c'était une grosse civilisation qui avait la plus puissante de la mer Égée, évidemment, quand elle va subir des dégâts, les autres civilisations vont se dire, ok, c'est le moment, les gars. Là, on va prendre l'hégémonie, on va prendre le pouvoir. C'est normal dans leur idée conquérante. Et en fait, ils vont s'y installer, ils vont la coloniser, et par le biais d'acculturation, par le biais de mariage ou autre, cette civilisation minoenne va complètement disparaître.
C'est ouf, ils passent de civilisation qui est capable de, on va dire, d'être en compétition avec... avec les Grecs, etc., à totalement disparaître, quoi.
À totalement disparaître. Et c'est pour ça que... Pourquoi on pense que ça pourrait être une des solutions de l'Atlantide ? Parce que effectivement, 4 vagues qui engloutissent une île, ça peut marcher quand même. Ça peut marcher. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas au fond de l'océan. Et selon le mythe de Platon, cette île est au fond de l'océan. Donc c'est pour ça que... plein de chercheurs ne sont pas d'accord sur le fait que les Minoens seraient la civilisation disparue de l'Atlantide. Mmh. Après, on y voit ce qu'on veut voir, mais il faut savoir que c'est une civilisation qui est assez incroyable, voilà, qui était la plus grande civilisation d'Europe à l'époque, et qui, à cause de la nature, va complètement disparaître. Ce qui montre aussi comme quoi nous ne sommes rien, toute grande civilisation que nous sommes, face à la nature.
On est fragile, là.
On est fragile, voilà. Donc, c'était les Minoens, hein. Voilà, moi qui me passionne, que je trouve incroyable. Et surtout, je me dis, je me mets à leur place en disant que c'était une civilisation tournée vers la mer, tournée vers le soleil. Ça a dû être tellement difficile pour eux de voir que ça se retourne contre eux.
Et puis, comme tu dis, surtout en une génération, c'est même pas un truc un peu insidieux qui va s'installer sur plusieurs générations.
Non, c'est très rapide. C'est très, très rapide.
Il y a des gens qui vont connaître que le déclin de la civilisation.
C'est
en fait.
C'est ça. Et c'est pour ça que c'est assez incroyable. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup, c'était ultra passionnant, vraiment trop trop bien.
Bah oui, moi ça m'a passionné, moi, donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Après là, je suis en pleine réflexion sur d'autres civilisations perdues, vous inquiétez pas. Je mène l'enquête, peut-être que je vous découvrirai où est l'Atlantide.
Ça serait trop drôle.
Non, j'ai pas les outils.
Mais les gars, on a pensé à regarder là. Ben voilà, c'était là depuis le début. Voilà.
Alors, sachez que si vous voulez regarder sur l'Atlantide, il y a quelque chose qui est très intéressant pour vous montrer à quel point c'est difficile, ces recherches-là sur des mythes où on pense vraiment que ça a existé. Dans l'épisode dont je vous parlais de National Geographic sur l'Atlantide, qui parle très rapidement des Minoens aussi, puisque c'était une des... comment dire des filiales de recherche, mmh. un des fils conducteurs de recherche, un des fils de la pelote, comme on dit en recherche. Ils nous montrent d'autres hypothèses, et il y en avait une qui paraissait tellement incroyable, donc justement avec l'outil là qui vide les océans là, avec l'outil numérique qui vide les océans, mmh. Ils avaient pensé que en suivant le récit de Platon, ils pensaient que c'était placé entre les deux colonnes d'Hercule. Et on sait où étaient placées à peu près les deux colonnes d'Hercule, et quand ils ont vidé, il y a un plancher océanique, il y a une sorte de petit piémont, quoi, mais il n'y a pas de trace de vie dessus.
Wow, quelque chose me dit que ça ne va pas être tout de suite qu'on va trouver quand même.
Voilà, mais si ça a existé, il y a tout ça aussi, parce que si ça se trouve, Platon s'est inspiré pour faire un récit mythique, mythologique, de romancier, s'est servi par exemple des Minoens, dont il a pu entendre parler. C'était 2000 ans, même pas 2000 ans plus tard. Donc, il a pu en entendre parler comme un récit. Vous savez, il y a une civilisation qui a disparu, machin, ça s'est passé comme ça. Ça a été une catastrophe. Il faut vous imaginer, dans ce bassin méditerranéen, ça a été une catastrophe d'une ampleur. Et c'est la plus grosse catastrophe naturelle jamais enregistrée. Donc, il n'y a pas que la Crète qui a été touchée par des tsunamis aussi. Donc, ça a été une très, très grande catastrophe naturelle. Donc, ça a forcément marqué les esprits, notamment pour ces gens-là. Donc, si ça se trouve, ils voulaient parler des Minoens, on n'en sait rien. Donc, tout le problème est là, sur ces mythes-là. C'est très difficile. Avec l'archéologie et les qui font les géologues, etc., qui peuvent retrouver ces choses-là. Mais c'est passionnant. Moi, j'avais l'impression d'être Indiana Jones ou Tomb Raider en train de chercher un truc, quoi. Alors, rien qu'en regardant avec eux les reportages, quoi. C'est incroyable. Donc, voilà.
Bah écoute, trop cool, merci, j'ai hâte de t'entendre parler des prochaines.
J'en ai une de prête. Après, je suis en train de chercher pour les autres, je farfouille. Voilà.
Ne te presse pas, on a tout notre temps.
Bah oui, mais ça m'occupe aussi, hein. C'est chouette.
Tu vois, comme on disait avec Alex, hâte de pouvoir reprendre des enregistrements avec un petit apéro, enfin accompagné d'un petit apéro.
Ah bah oui, avec plaisir. Oh là là, m'en parlez pas.
Bah écoute, merci beaucoup encore, c'était vraiment très très chouette.
Bah je vous en prie, puis j'espère que ça va vous plaire, voilà.
Mais de même, je n'en doute pas, et puis bah, comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, à nous envoyer des likes, des commentaires ou des messages, ça nous fait extrêmement plaisir, on en reçoit particulièrement en ce moment, et c'est vraiment très très chouette, ça nous fait beaucoup de bien au moral. Donc merci à vous, et puis si encore une fois, si vous avez des propositions de sujets, d'idées, d'invités, faites-vous plaisir. Si vous avez des applications où on peut noter le podcast, si vous pouvez le faire, ça serait cool, parce que ça nous permet de nous faire connaître, et si vous pouvez pas le faire, partagez-le autour de vous, c'est toujours très chouette. Dans tous les cas, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres, et à plus tard. Ciao.
Ciao.